Le grand face-à-face. Thomas Negarov sur France Inter.
Aujourd'hui, les électeurs ont pris une décision très importante. Les résultats des élections ont montré que les électeurs ont décidé d'établir une nouvelle politique en Turquie. Les électeurs ont décidé de changer une image de la Turquie vieille de 22 ans et d'ouvrir la porte à un nouveau climat politique dans notre pays.
Bonjour Gilles et Natacha.
Bonjour.
Bonjour.
On vient d'entendre Özgür Özel, le chef du parti d'opposition, le CHP en Turquie, qui a remporté les élections municipales en début de semaine. On l'a entendu, il y voit un revers pour Erdogan, son parti l'AKP, moins d'un an après son triomphe à l'élection présidentielle. Le CHP, il faut le préciser, c'est un parti laïque. Natacha, est-ce que ça veut dire que l'islamisation de la Turquie est loin d'être une fatalité ?
Je pense qu'on peut, évidemment il faut rester très prudent, mais en tout cas trouver là un signe extrêmement intéressant. D'abord, la réélection triomphale d'Erdogan, je serais beaucoup plus mesurée puisque son adversaire avait quand même fait 48%, ce qui était assez énorme.
C'est vrai, mais il était le candidat unique des 6 partis d'opposition. Beaucoup évoquaient la défaite d'Erdogan, triomphe
parce qu'il a triomphé aussi des oppositions. Parce qu'il y a eu une remontée, Là, il y a en effet une victoire assez historique, puisque donc le Parti républicain du peuple, qui est le parti kémaliste, fait 37,7%, l'AKP est à 35,5%. Alors, on pourrait évidemment se dire, mais en 2019, déjà, le CHP avait fait un bon score, sauf qu'à l'époque, il avait bénéficié d'un report des Kurdes, des voix du parti kurde. Et d'ailleurs, les élus municipaux kurdes avaient été immédiatement invalidés par le pouvoir. Enfin, tout cela avait été assez contrôlé par l'AKP et par Erdogan. Cette fois-ci, il y a un véritable changement. Donc le parti kémaliste est devant, il est devant seul, avec des leaders. Il a les grandes villes du pays. Il avait déjà Istanbul, Ankara, mais par exemple un bastion de l'AKP, Bursa, a été repris, enfin a été pris par le CHP. Alors qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie déjà qu'il y a en effet un fond culturel du kémalisme, et c'est ça qui me semble assez intéressant. Dans un pays qui est gouverné depuis plus de 20 ans par un islamiste que les Européens adoraient appeler modéré, j'ai jamais compris ce que signifiait islamisme modéré,
Il a évolué quand même.
Il a évolué, bien entendu, mais on peut peut-être espérer que les structures mises en place par Mustafa Kemal perdurent et qu'il y ait donc une véritable culture démocratique qui résiste. Et d'ailleurs, c'est très intéressant, Recep Erdogan n'a jamais pu se débarrasser en fait de la figure de Mustafa Kemal. Donc il a essayé de l'utiliser, il a conçu une espèce de mixte de nationalisme et d'islamisme parce qu'il a besoin de s'appuyer sur ce fond culturel. Alors, la diaspora turque en Europe, elle, a voté majoritairement, comme d'habitude, pour Erdogan, mais on sent bien qu'il y a une différence, en fait, entre cette diaspora qui est justement pétrie de nationalisme et qui, répond aux discours occidentaux en votant par réflexe pour Erdogan, et ce que vivent les Turcs eux-mêmes. Et je crois qu'il y a une chose intéressante, qu'il faudrait avoir en tête du côté des pays occidentaux, c'est justement que la Turquie est un pays complexe, est un pays donc extrêmement intéressant par cette résistance démocratique, et que du coup, les grands discours sur nous, les démocraties, face aux autocraties, sont d'un simplisme crasse face à cela. Et qu'il faut s'en méfier, parce qu'il ne faudrait pas, justement, attiser le réflexe nationaliste qui sert depuis des années Erdogan.
Gilles, il y a un an, au moment de l'élection d'Erdogan, enfin de sa réélection à la tête du pays, je me souviens qu'il y a beaucoup de jeunes qui disaient « c'est fini, on n'y croit plus à la démocratie, on ne votera plus jamais, on va même quitter le pays ». Il y avait l'opposition qui était vraiment... on se rend compte effectivement de la vitalité démocratique de ce pays qu'évoquait Natacha.
Malgré tout, la longue présence au pouvoir d'Erdogan a abîmé la démocratie. Oui. Et les conditions du débat démocratique ne sont pas exemplaires. Mais il s'est passé quelque chose avec ces élections et avec un résultat global qui doit être souligné par sa netteté. C'est-à-dire que c'est la pire défaite de l'AKP, le parti d'Erdogan, depuis 22 ans. Et c'est une nette victoire du CHP, le parti kémaliste. Natacha a souligné certaines villes emblématiques. Bursa, qu'elle évoquait, c'est une ville de 2 millions d'habitants. Et quand on regarde la population qui est gérée par chacun des partis, compte tenu du poids des villes, c'est les deux tiers des habitants qui sont gérés par des villes du CHP et 25% seulement par l'AKP d'Erdogan. Et puis, au-delà de ce résultat global, il y a un résultat symbolique qui est celui d'Istanbul. Parce que c'est le poids à la fois culturel, économique, démographique d'Istanbul, mais aussi parce que Istanbul a été la ville d'Erdogan, il a été maire, c'est là qu'il a commencé sa carrière, et qu'il s'est engagé dans cette campagne de manière très forte, y compris de manière très symbolique, en allant prier la veille du scrutin à Sainte-Sophie, qu'il avait transformé en mosquée. Or, en dépit de tout cela, il y a eu à nouveau, comme en 2019, la ville est restée au CHP avec Imamoglu. Au final, on a il y a un très bon papier dans le grand continent qui analyse ces résultats, qui parle d'une géographie tripolarisée, c'est-à-dire que toutes les régions côtières et les grandes villes pour le CHP, l'intérieur du pays, l'Anatolie intérieure, avec encore une forte présence de l'AKP d'Erdogan, et puis le sud-est, on faut pas l'oublier, avec les Kurdes. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Pour autant qu'on puisse le dire. Je crois qu'à court terme, pas grand-chose. Au sens où Erdogan, ce n'est pas la fin d'Erdogan. Erdogan a encore 4 ans de pouvoir et il a encore des pouvoirs importants. En revanche, il va devoir gérer une cohabitation, ce qu'on pourrait appeler une cohabitation horizontale. C'est-à-dire que le pouvoir national reste à Erdogan, le pouvoir local, de plus en plus, est au CHP. Et à moyen terme, je crois qu'il y a évidemment beaucoup d'incertitudes qui tiennent à la fois à la situation économique, à la situation juridique, parce qu'il y a une nouvelle constitution qui est en cours d'élaboration, évidemment à la situation politique, parce que Erdogan, normalement, ne peut plus se représenter. Il est possible que Erdogan ait trouvé la bonne formule pour analyser ses résultats. Il a parlé d'un tournant. Eh bien, il est possible que ce soit un tournant parce que il y a ce fond culturel du kémalisme qu'évoquait Natacha, parce que le CHP est redevenu le premier parti, et puis et surtout parce que il y a eu l'émergence d'un leader face à l'AKP avec ce maire d'Istanbul, Imamoglu, qui est un jeune leader charismatique.
Ces jeunes leaders charismatiques, le poids des villes face à l'intérieur, ça, même s'il y a des réalités évidemment nationales toujours très différentes, mais on va parler des États-Unis tout à l'heure avec notre invité, on peut parler de la France. C'est ce clivage désormais entre les grandes villes, l'intérieur, les campagnes. C'est quand même quelque chose qui nous interroge, non, Natacha? C'est quelque chose qui transcende les différences culturelles, les différences nationales. C'est assez frappant, je trouve.
Oui, en effet. Et c'est d'autant plus important dans un pays où on a le poids de la religion qui pèse. Pourquoi? Parce que j'ai toujours été frappée justement des illusions que pouvaient avoir certains analystes occidentaux face, par exemple, aux mouvements qui peuvent naître dans des pays comme l'Iran, où on voit très bien qu'ils oublient que la masse de la population, notamment dans les campagnes, soutient le pouvoir. Et que, évidemment, qu'on a tous envie de regarder ce mouvement des femmes qui est extraordinaire et qui est d'un courage absolument hallucinant. Hélas, le pouvoir est encore soutenu. En Turquie, ce qui est très intéressant, et c'est pour ça que Gilles a tout à fait eu raison de souligner le poids de la population, bien sûr que la population des campagnes penche encore pour Erdogan. Mais il est vrai que les villes ont une population jeune, connectée, qui est ouverte au monde. C'est-à-dire que la Turquie est un pays éminemment moderne et ouvert. Alors, évidemment qu'il souffre d'une inflation qui est absolument énorme. Évidemment que la situation économique joue contre Erdogan, mais peut aussi, à un moment donné, fragiliser les institutions. Dernier point. Gilles soulignait la question de la potentielle réforme constitutionnelle et donc la tentation que pouvait avoir Erdogan de s'autoriser un nouveau mandat. 4 ans, c'est très long. On ne sait pas ce qui va se passer. Il n'y a pas d'élection nationale avant 4 ans. Ce qui signifie que Imamoglu et le CHP ne pourront pas confirmer cette victoire. Donc, on est dans un entre-deux, mais de fait, la Turquie présente un profil, encore une fois, et j'y insiste parce que c'est extrêmement important, qui est très intéressant à étudier et dont il ne faut surtout pas que les Occidentaux le rejettent dans le camp des dictateurs, des autocrates, pour se faire du bien à eux-mêmes.
Le grand face-à-face, le duel.
Une mesure politique visant à réduire le financement des établissements qui n'auraient pas assez de mixité sociale conduirait à l'effet inverse, c'est-à-dire que ces établissements seront de moins en moins mixtes puisqu'il faudra compenser le manque de financement public par les familles.
Philippe Delorme, secrétaire général de l'enseignement catholique, qui réagit ici au rapport parlementaire qui dénonce un financement public de l'enseignement privé sous contrat, majoritairement catholique, peu transparent, mal contrôlé et aux contreparties souvent très floues, notamment, on l'a entendu ici, en matière de mixité sociale. Natacha, vous avez regardé ce rapport parlementaire, le résultat d'un travail d'un parlementaire LFI et Renaissance, c'est important de le dire, donc transpartisan. L'argument juste qu'on vient d'entendre est quand même assez frappant. L'idée de dire, si on nous demande plus de mixité, il y en aura moins, parce qu'on sera obligé de faire payer plus les familles, parce qu'il y aura moins d'argent. Bref, j'ai pas compris.
Alors, non, c'est pour être juste, l'argument de Philippe Delorme est de dire, si on nous tape au portefeuille, alors nous serons obligés de compenser par le financement des parents. Et donc, ça, évidemment, ça sélectionnera des familles plus aisées. On peut discuter cet argument, mais il s'entend. Bon, point de départ de ce rapport. On a en effet un député LFI, qui est d'ailleurs un des spécialistes de l'école. On peut regretter dans beaucoup de partis politiques l'absence de spécialistes des questions scolaires, ça me frappe depuis des années. C'est une question qui a disparu de la réflexion politique et je trouve ça honteux. Paul Vanier, lui, s'intéresse à ces questions et depuis longtemps.
Et je précise que être prof ne suffit pas pour être spécialiste des questions scolaires.
Non, exactement.
Souvent, on considère que c'est le cas, c'est loin d'être le cas.
Alors non, en général, voilà, il y a d'autres petites choses. Oui. Et là, la dimension politique de ce rapport, c'est qu'évidemment, Paul Vanier prend la lumière par rapport à Christopher Weisberg. Et ça fait un peu grincer des dents dans la Macronie. C'est-à-dire qu'on reproche à ce député Renaissance, de la gauche de la Macronie, d'avoir peut-être un petit peu trop penché à gauche pour essayer de faciliter les choses.
Alors c'est un rapport de gauche, pourquoi ?
Sur le fond du rapport, il y a 55 propositions, 27 sont des propositions communes, ce qui est quand même un accord, ce qui permet à LFI de dire nos idées ont gagné. Mais en fait, sur le fond, c'est un rapport très intéressant. Il égrène des choses qu'on savait. À savoir que il y a, par exemple, un financement très opaque, assez peu de contrôle. Les établissements publics ont 10 fois plus d'audits financiers que les établissements privés. Il y a 5 contrôles par an pour 7500 établissements privés. Donc, comme le dit le rapport, ça équivaut à une fois tous les 1500 ans. C'est peut-être pas suffisant. Voilà. Bon. Et alors que sur la question, par exemple, du contrôle pédagogique, là, il y a à peu près autant de contrôles dans le privé que dans le public, c'est-à-dire quasiment pas non plus, puisque un professeur va être contrôlé, 3 fois dans sa carrière.
On dit inspecté, hein.
Oui,
inspecté. Vous avez oublié.
En effet, j'ai de vieux. Mais ça relève d'un contrôle tout à fait justifié de l'État. Beaucoup moins important pour les contractuels. Or, il y a plus, rappelons-le, on ne le dit jamais assez, il y a beaucoup plus de contractuels dans le privé que dans le public. C'est 20% de contractuels dans le privé. Bref, ce contrôle de l'État est légitime et ce rapport a raison de souligner qu'il est inacceptable qu'il y ait aussi peu de transparence. Je prends un exemple. L'État met 170 millions par an sur la formation continue des enseignants du privé. C'est un flou absolu. La principale boîte, Formiris, personne ne sait exactement ce qu'elle fait. Il y a des espèces de cours de sophrologie, de temps en temps des choses comme ça. Enfin, c'est vraiment, là pour le coup, c'est un problème politique important. Après, sur la question de la mixité, en effet, le rapport s'intéresse à cet élément important, le fait que les établissements privés ont tendance à éjecter les élèves qui leur déplaisent pour garder leurs statistiques. Et c'est là où il y a débat, puisque Paul Vanier veut taper au portefeuille 10 000 euros à chaque élève viré, alors que Christopher Weisberg propose plutôt une autorisation du rectorat pour éloigner un élève, sachant qu'en fait la subtilité, et c'est pour ça que ce rapport risque de rester lettre morte de ce point de vue-là, c'est que ce n'est jamais officiel, c'est-à-dire qu'un établissement privé va suggérer à un moment aux familles de chercher un autre établissement. On ne va pas exclure un élève, on ne va pas refuser de l'inscrire. On fait comprendre que ce n'est pas la peine de réinscrire. Donc, et de fait, il y a une jurisprudence du Conseil constitutionnel qui, de toute façon, a d'ores et déjà expliqué que c'était un contrat et que donc l'établissement avait le droit de ne pas renouveler le contrat. Donc, la réponse est sans doute ailleurs. Et je laisse la parole à Gilles, mais on va...
Gilles, la réponse est ailleurs. Est-ce qu'elle est chez vous, Gilles?
Bon, d'abord, c'est intéressant. C'est un sujet qui était quasiment un sujet tabou depuis 40 ans, depuis l'enterrement du service public unifié de l'éducation nationale, le SPULEN, des 110 propositions de François Mitterrand. Ça fait 40 ans qu'on en parlait peu. Ça avait été réactivé par l'actualité récente. On en avait parlé ici avec la suppression de l'agrément du lycée Averroès à Lille. Ça avait été réactivé par l'actualité récente aussi après la nomination d'Amélie Oudéa-Castéra et le lycée Stanislas, et on voyait que la situation n'était pas satisfaisante. D'ailleurs, il y avait eu un rapport de la Cour des comptes récent, lui aussi au mois de juin dernier, qui le pointait, et il y a ce rapport parlementaire qui est un travail intéressant, au sens où c'est un travail fourni, il y a eu plus de 40 auditions, 6 mois de travail, un travail transpartisan, Natacha l'a dit, et largement consensuel. Ce qui, je crois, devrait faire consensus, ça ne veut pas dire que ça va faire consensus, mais ce qui devrait faire consensus, une plus grande transparence sur les sommes allouées, c'est de l'argent public. Le rapport montre à quel point le montant global, très important, hein, c'est plus de 10 milliards d'euros, est opaque, à quel point les critères d'allocation des collectivités locales sont flous, donc plus grande transparence. Contrôle plus effectif de l'utilisation, Natacha a donné tous les chiffres, les contrôles sont prévus juridiquement, et ils n'existent pas pratiquement. Et enfin, et on l'avait vu au moment du lycée Averroès, des sanctions mieux graduées en cas de dysfonctionnement, là c'est un peu du tout ou rien. Ça, je crois que ça devrait faire consensus. Et puis, il y a ce qui devrait être l'occasion d'un grand débat.
Oui.
Autour d'une question... En fait, qui est une question qui se pose aussi pour le capitalisme dont on va parler tout à l'heure avec Sylvie Laurent, qui est de savoir quelle doit être la part de compétition et quelle doit être la part de coordination et de coopération entre le public et le privé. Et avec un point de fixation très concret qui est la question de la mixité sociale. J'avais été frappé quand on avait reçu il y a quelques semaines François Dubé, avec le livre qu'il avait écrit avec Najat Vallaud-Belkacem sur la mixité scolaire, de voir à quel point, y compris pour de l'expérimentation, il avait été difficile d'embarquer l'enseignement privé. Et là, on est frappé à la lecture du rapport, il y a un tableau page 117 qui est édifiant, qui montre que la mixité scolaire non seulement est faible, mais qu'elle est de plus en plus faible. Oui. J'en donne juste un chiffre qui m'a vraiment frappé. En 2000, il y avait dans l'enseignement privé autant d'élèves défavorisés que d'élèves très favorisés. 25% pour les deux. 20 ans après, 40% d'élèves issus de milieux très favorisés, 15% issus des milieux défavorisés.
Et le problème, c'est que ce sont des vases communicants. S'il y a moins de mixité scolaire dans le privé, il y en a moins dans le public.
Voilà, c'est pour ça que ça ne concerne pas seulement l'enseignement privé, mais que c'est un problème qui est un problème global, avec la proposition, et ça qui mérite un débat, d'une modulation financière en fonction d'objectifs qui ne sont pas seulement les objectifs qui sont fixés aujourd'hui, mais d'objectifs aussi de mixité scolaire. Le risque de tout ça... On a entendu Philippe Delorme tout à l'heure, c'est le risque de l'enterrement pour des raisons essentiellement politiques, parce que l'enseignement privé sous contrat à 96%, c'est l'enseignement catholique, qu'il y a déjà une crispation aujourd'hui avec la constitutionnalisation de l'IVG et le projet de loi sur la fin de vie, et donc... A fortiori, avant les élections, le risque d'une grande prudence, pour ne pas dire plus, je crois, est un risque réel. Mais je crois qu'il y a vraiment la nécessité d'avancer et que ce que montre ce rapport, c'est que c'est possible. Et donc, je crois vraiment qu'il faut essayer de s'en saisir.
Le grand face-à-face, le duel.
Allez, troisième sujet du débat, Bruno Le Maire, ministre de l'économie, qui s'est invité lundi au comité exécutif d'EDF. Il demande à l'énergéticien de renégocier ses contrats signés pendant la crise et jugés aujourd'hui trop chers par beaucoup d'entreprises françaises. Alors ça peut sembler ultra technique, mais Gilles, ça vous a passionné et vous me dites que c'est très politique.
Oui, ça peut sembler surtout anecdotique et je pense que ça ne l'est pas du tout. En fait, je vais repartir une nouvelle fois du travail parlementaire, puisqu'on est une semaine où il s'est passé des choses et des choses positives à l'Assemblée, c'est pas toujours le cas, puisque une proposition de loi a été adoptée, c'est rare, généralement les textes qui sont adoptés sortent du gouvernement, et a fortiori une proposition de loi de l'opposition, puisque c'est un député socialiste, Philippe Brun, qui l'a porté. Alors, ce texte consolide la propriété à 100% d'EDF par l'État, et elle résout un problème dont on avait parlé ici, qui est celui de la régulation des prix pour les petites entreprises, notamment on en avait parlé pour les boulangers. Et elle dit qu'il faut qu'il y ait un contrat stratégique entre l'État et EDF. Et c'est là où on vient à Bruno Le Maire, parce qu'on voit qu'on est au cœur des difficultés actuelles, avec une double exaspération. Il y a une exaspération de l'État envers EDF, et c'est ça qu'a voulu montrer Bruno Le Maire. En gros, l'État se dit, ils ne tiennent pas les délais, ils ne tiennent pas les coûts, ils ne produisent pas ce qu'ils devraient produire, exaspération de l'État. Et symétriquement, il y a une exaspération d'EDF envers l'État. Ils nous demandent de financer des investissements considérables, mais ils nous privent des ressources en maintenant un prix trop bas pour l'électricité. Et donc il y a un procès en incompétence d'un côté, un procès en incohérence de l'autre. L'État dit EDF n'est pas une entreprise comme les autres. Elle joue un rôle déterminant pour la compétitivité de l'économie. EDF dit, nous devons être une entreprise comme les autres si nous devons, pour remplir vraiment notre rôle. Et c'est donc, ça fait des mois et des mois qu'il y a une tension extrêmement forte entre l'actionnaire et l'entreprise. Comment, normalement, cette tension-là se résout ? Au pire, parce que l'actionnaire décide de remplacer le président. Et avant ça, il peut le convoquer, voire il peut aller au conseil d'administration, puisque c'est là où se prennent les décisions stratégiques. Déjà, c'est absolument exceptionnel, je ne suis même pas sûr qu'il y ait de précédent, où c'est le ministre lui-même qui va au conseil d'administration. Là, ce qui a été choisi est complètement atypique et en réalité complètement incompréhensible, c'est qu'il n'est pas allé devant le conseil d'administration, mais devant le comité de direction. Le comité de direction, c'est là où le président rassemble c'est les principaux responsables de l'entreprise pour la mise en œuvre avec une réunion qui est une réunion hebdomadaire. Et donc il y a une confusion institutionnelle sur le rôle de l'actionnaire qui est absolument incroyable. Tout cela pour absolument aucun effet opérationnel parce que ça va renforcer la défiance. Et là où Bruno Le Maire veut montrer son autorité, en réalité, il illustre son impuissance en se sentant obligé d'aller devant le comité de direction pour réaffirmer ses orientations.
Et en effet, la différence entre COMEX et conseil d'administration est très intéressante sur le rôle de l'État. Je suis d'accord avec Gilles sur le fait que Bruno Le Maire y va. Alors, il y va, il montre son impuissance, mais c'est en fait un message à l'adresse des Français. Il s'agit de dire, regardez, je m'intéresse au cas des petites entreprises, des boulangers, et je vais défendre leur pouvoir d'achat. Ce qui est à peu près la seule politique économique de Bruno Le Maire depuis qu'il est à Bercy, à savoir l'affichage quant au pouvoir d'achat des Français, sans qu'il y ait derrière une véritable politique. Et c'est bien cela le problème, parce que le débat entre EDF et Bruno Le Maire, c'est un débat qui touche c'est la facture de ces décennies où l'on a estimé que les monopoles d'État devaient devenir des entreprises comme les autres, qu'on allait libéraliser le marché et l'inscrire dans les fameuses règles européennes du prix de l'électricité. Et donc EDF dit, il y a incohérence. Vous me demandez des choses que je ne peux pas faire et je ne peux pas à la fois garantir ce prix bas et en même temps avoir de quoi mener une politique qui va permettre de construire des EPR, de financer l'ensemble du nucléaire et tout ça en s'inscrivant dans le cadre d'une politique où il a fallu faire cadeau à des concurrents créée de toutes pièces, d'une électricité peu chère. Tout ça est totalement incohérent. Et arrive à la fin du processus Bruno Le Maire, qui vient juste montrer qu'il existe politiquement. Alors que la question du rôle de l'État dans une entreprise, elle est extrêmement intéressante. Souvenez-vous qu'en 2010, Nicolas Sarkozy avait piqué une gueulante contre Renault parce que il y avait deux représentants de l'État au conseil d'administration de Renault. Et ces deux représentants de l'État ne votaient jamais contre les délocalisations. Ils ne jouaient pas leur rôle, ils n'en avaient rien à faire. Alors c'est tout un problème de recrutement des représentants de l'État. Ils sont recrutés par l'agence de participation de l'État, qui en effet n'a absolument pas en vue l'idée d'une politique industrielle, d'une défense de l'emploi. Et il y a là véritablement une question à se poser sur le rôle des administrations publiques et la question de savoir si on a conscience d'une politique industrielle. Il est vrai que là, Bruno Le Maire a fait de l'écume, il a fait du vent. En revanche, la proposition de loi du député Philippe Brun, qui est un proche d'Arnaud Montebourg, elle s'inscrit dans une réflexion sur ce qu'est une politique industrielle, ce qu'est un service public et comment on fait en sorte que DF... Parce que je rappelle qu'au départ, cette proposition de loi de Philippe Brun avait aussi pour but d'interdire le potentiel démantèlement d'EDF, puisqu'il y avait eu, on en avait parlé ici, ce projet Hercule qui consistait en gros à scinder EDF pour... permettre, comme d'habitude, de faire payer aux contribuables les pertes, mais de libéraliser les profits. Et là encore, Philippe Brun est de ceux qui se sont élevés contre ça. Cette proposition de loi sert à ça. Donc elle sert à dire qu'on peut éventuellement avoir une politique industrielle dans un moment où le prix de l'électricité est un des facteurs de compétitivité majeurs. Aux États-Unis, l'électricité est 3 fois moins chère pour les entreprises et on voit que la croissance n'est pas la même en Europe et aux États-Unis.
Un mot, Gilles ?
Oui, un mot. Au-delà d'EDF, la question la plus fondamentale qui est derrière, c'est celle de la transition énergétique et de réussir cette transition énergétique dont Jean-Baptiste Fressoz, ici, nous disait qu'elle n'avait jamais existé. Et on voit, je termine par là, à quel point le marché dysfonctionne. À quel point le prix du carbone pour dissuader sur le pétrole et le gaz est insuffisant et à quel point les investissements auxquels il faut procéder, c'est vrai pour le nucléaire, c'est vrai pour le renouvelable, c'est vrai pour les coûts de réseau, sont des investissements absolument considérables. Ça se chiffre en centaines de milliards d'euros. Alors on peut dire, on peut être effrayé par ces montants, mais on a importé cette année en pétrole et en gaz 100 milliards d'euros. Donc, c'est des sommes évidemment très importantes, mais c'est des sommes qu'il faut relativiser et ce sont des bons investissements. C'est des bons investissements évidemment pour le climat, mais c'est des bons investissements y compris d'un point de vue économique parce qu'il y a de l'emploi et que c'est de l'emploi territorialisé et que quand vous avez des projets qui sont des projets à 10 ans, ça change la vie d'un territoire. Donc, je crois qu'il faut y aller. Ça veut dire, je termine juste par cette phrase-là, que sans doute pour résoudre cette tension autour d'EDF, il va falloir qu'il y ait ce qu'on appelle des aides d'État. Tous les pays, en réalité, font, sous le regard de la Commission européenne qui les contrôle et normalement les interdit.
Mais la France, moins que les autres.
Eh ben,
elle utilise beaucoup moins les aides d'État.
Eh ben, voilà, donc il va falloir faire ça habilement.